Après les trois taupes, vous retrouverez vos programmes ordinaires.
Bonjour. On fait un petit jeu radiophonique. Est-ce que vous savez qui est cette personne ?
Aucune idée, bon. Puis j'ai autre chose en tête.
On a une photo. Qui est-ce ? Enfin, qu'est-ce que vous inspire cette photo, d'après vous ? Est-ce que vous pourriez la décrire un peu ?
Non, je vois pas qui c'est du tout, moi.
Un indice.
Un homme politique, le maire ? Un adjoint ?
C'est pas un homme politique.
Un aviateur ?
Ah ! Yatsa,
oui. Yatsa, on est plus proche déjà. Oui,
mais c'est pas vraiment ça, alors.
Non, mais c'est vrai que ça plane assez haut.
C'est un Villeurbanais.
Ah, oui, il a été Villeurbanais.
Il a habité
ici, dans les gratte-ciels.
On donne notre langouche. Hein.
Hélas, non, monsieur.
Alors, donc, nous sommes toujours dans l'avenue Henri Barbuse avec la photo de...
Il est pas mal, hein. Je sais pas. Je pourrais le décrire. Ça serait peut-être Maurice Leroux.
Ouais, je m'appelle Sonia Bove, je suis depuis 3 ans adjointe à la mémoire et au patrimoine de la ville de Villeurbanne, et quand je dis je suis depuis peu, c'est que la délégation n'existait pas. Voilà, donc c'est une délégation qui innove et qui embrasse, j'allais dire un champ très très vaste, à savoir comment raconter la ville. Comment la ville se raconte-t-elle à elle-même et comment la ville peut-elle être racontée, j'allais dire de manière humble, au monde? Comment Villeurbanne se raconte au monde et comment Villeurbanne se voit? Et qu'est-ce que Villeurbanne a envie de dire de Villeurbanne? Bon, là, vous me présentez donc la photo de Maurice Leroux. Vraiment, je croirais pas comme ça si j'étais... Si j'avais la science de la physionomie, je ne pourrais pas dire que c'est un très grand architecte. Enfin, en tous les cas, je pense que c'était un être absolument fantasque, étrange, incompris, mystérieux, ça c'est sûr. Et en même temps, je le trouve beau garçon, moi, je trouve assez séduisant. Voilà. C'est cet homme qui a construit nos gratte-ciels.
Ça, qu'il est séduisant, c'est assez unanime, hein. Tout
oui,
le monde le dit.
C'est vrai.
Oui, oui. Ouais. Mais par contre, alors, le fait qu'il soit aussi le concepteur de la mairie, c'est plus controversé. Donc on nous soutient qu'il a, lui, construit cette mairie qui nous paraît complètement différente des gratte-ciels et du théâtre, donc du maintenant TNP. On est assez perplexe, quoi, sur cette question.
Alors, écoutez, sur cette question, moi aussi, je le suis complètement. J'aurais voulu vous trouver des documents. Mais enfin, en tous les cas, ce sont les gratte-ciels qu'il a construits, Maurice Leroux. Hein.
Non. Maurice Leroux, il fait tout. Maurice Leroux, il fait tout. Il est le Maurice Leroux, il est l'architecte de toute l'opération. Alors je suis Jean Moretto, je suis le directeur général du développement urbain, dans lequel bien sûr il y a l'urbanisme, développement économique, les déplacements, le patrimoine. Donc à ce titre-là, bien sûr, je m'intéresse. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a essayé de rechercher ensuite ce que Maurice Leroux avait pu faire autre. Apparemment, peu d'autres choses. Vous voyez, je pense que cette œuvre-là l'a occupé. Je dirais assez grandement. Il est remarquable, si vous aviez occasion d'aller voir aux archives municipales, on peut retrouver les plans de Maurice Leroux en détail. C'est remarquable le travail de lui et son atelier. Au niveau du détail, au niveau... Vous voyez, c'est vrai qu'à l'époque, concevoir une opération de 1500 logements, concevoir un hôtel de ville de cette importance, concevoir un palais du travail de cette importance, c'est à l'échelle des moyens de l'époque, tout est tracé à la main, tout est dessiné à la main, y compris le détail de la verrerie, de la serrurerie. Vous voyez, donc c'est un travail immense. C'est pour dire que c'est l'œuvre de Leroux qui est restée, ça. C'est son œuvre.
Parce que moi j'avais un doute parce que je pensais que ça avait été un prix de Rome qui avait construit le.
Oui,
c'est ça.
C'est pour ça qu'on a. Si, le roux il est là.
Il y a une plaque en bas.
Non, mais le roux il est là.
Il est aussi dans la plaque.
Non, mais d'accord. Oui, non, mais d'accord. Oui, mais ça, c'est ce que je veux dire. Mais l'homme qui laisse la trace, c'est le roux. Oui, bien sûr, pour des raisons de signature, je ne dirais pas. Je dirais même que son nom a été oublié, le prix de Rome, parce que ce n'est pas lui qui reste dans cette affaire. C'est le roux. C'est le roux. C'est le roux, c'est l'homme de Tony Garnier.
Non, moi, je ne crois pas. Moi, je pense qu'il a... Il a... Mais... Encore une fois, je ne dis pas que c'est un travail comme les pyramides, mais je veux dire, je suis devant un même mystère. Voilà. Comment cet homme isolé... ayant la confiance et pu dessiner cela. Voilà, c'est très mystérieux aussi pour moi, comme la plupart des Villeurbanais.
Voici notre 9e bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le cheval bleu se promène sur l'horizon deux fois.
La Ducatrice se dépasse du marbre.
Dans le hall de la mairie, hein, et effectivement, il y a donc une plaque qui attribue la construction de l'hôtel de ville à monsieur...
À monsieur Robert Giroux, hein, alors sur cette plaque en vrai marbre, sur un mur en faux marbre. Sur cette plaque est gravé cet hôtel de ville, construit par la Société Villeurbanaise d'Urbanisme sous la direction de monsieur Robert Giroux, architecte. Grand Prix de Rome a été inauguré le 17 juin 1934 par monsieur le docteur Lazare Goujon étant maire. Puis suit le nom des adjoints et des conseillers municipaux qui étaient présents lors de l'inauguration. Alors là, force est de constater que Maurice Leroux n'est à aucun moment... Cité officiellement, on ne lui attribue pas en tout cas la construction de cet hôtel de ville, une sorte de meringue un petit peu arrogante, voilà, c'est une espèce de gros pavé comme ça avec des colonnes à la mode romaine. Donc Maurice Leroux est innocent, il n'est pour rien dans la construction de la mairie manifestement.
Alors donc reste à savoir pourquoi on essaye d'entacher la carrière de Maurice Leroux et de lui attribuer donc cette meringue défraîchie.
Je crois que là le mystère reste entier et c'est de notre devoir que de continuer à investiguer.
Donc nous allons nous remettre en contact au plus vite avec le comité Rhône de réhabilitation de Maurice Leroux et essayer d'organiser au plus vite une conférence de presse.
Ben voilà, je pense que on a du pain sur la planche là pour sauver la mémoire de Maurice.
C'est à lui que nous le devons. Buvons, camarades, buvons à la santé de Maurice.
On était après les années 20, hein, quand même. Je trouve que la géométrie, les lignes avaient donc une... Enfin, comment dire, on était là dans une géométrie bien particulière. Est-ce qu'il était imprégné de ça? Moi, je crois pas. C'était un géomètre, hein, de toute façon, au départ. Hein. C'était pas un architecte. Hein. C'était pas un architecte. C'est un homme qui... qui... Mais pour moi, ça restait une aventure extrêmement mystérieuse, car je pensais, moi, que ça ne pouvait être qu'une agence, l'agence Maurice Leroux, mais un homme seul, c'est tout à fait... Oui, mystérieux. Je pense que ça devrait donner lieu à probablement, peut-être même un film ou une bande dessinée ou une émission de radio.
Le feuilleton vertical. Premier étage, le feuilleton vertical. C'est pas pareil. Des gratte-ciel de Villeurbanne. Deuxième étage. Un programme réalisé par une coopérative ouvriériste de production de radiophonie. Troisième étage. Avec le feuilleton vertical, faites un détour par détour. Quatrième étage. Un détour par détour. Cinquième étage. Grâce à l'ascenseur social à deux vitesses. Douzième étage. L'assemblage sur un bâti unique en fonte de tous ses organes. Treizième étage. Constitue le type le plus robuste et le plus économique. Quinzième étage. Et permet son installation au sous-sol et au comble avec le minimum de frais. 16e étage. Le feuilleton vertical. C'est pas pareil. 17e étage. Les ascenseurs les plus hauts de la région lyonnaise. 18e et dernier étage. Sont dans les immeubles de Monsieur Maurice Leroux.
Gratte-ciel. Terminus. Tous les voyageurs descendent de voiture.
Alors, toujours dans la mairie de Villeurbanne. Donc,
Alors là, on est... On est dans un endroit un peu important, un peu stratégique de la mairie, puisqu'on est devant le bureau de la direction des affaires culturelles, de la mémoire et du patrimoine architectural. Et c'est écrit en gros « Directeur Bernard Sevaux ».
Bernard Sevaux n'est pas là, donc on avait une question cruciale à lui demander, c'est cette histoire de numérotation inversée.
Sur l'avenue Henri Barbusse, le schéma classique des villes veut que les rues commencent à être numérotées d'un côté et deux de l'autre, à partir du centre-ville, à partir du point névralgique de la ville. Et là, en fait, c'est à partir des gratte-ciel qu'on commence le 1 et le 2 jusqu'à la mairie. Alors, y aura-t-il une inversion du centre névralgique de la ville? On partirait des gratte-ciel et finalement la mairie ne serait que périphérique à ces gratte-ciel.
Une série d'énigmes s'entasse au fond de nos crânes.
Et si nous célébrons les 70 ans de nos tours, un verre à la main, au milieu de ces bambous qui évoquent si subtilement la vigueur toujours verte de notre municipalité,
c'est à lui que nous le devons. Buvons, camarades, buvons à la santé de Maurice.
Donc cette tarte à la crème est bien attribuée à monsieur Giroux,
Grand Prix de Rome. Enfin, les institutions bourgeoises de l'architecture ont produit Giroux qui a produit cette meringue. Les choses sont claires, mais notre camarade Maurice, à la santé duquel nous buvons et nous ne cessons de boire, n'est absolument pas mêlée.
La mémoire de Maurice est blanchie aujourd'hui.
Je crois. Le travail n'est pas prêt de s'arrêter, mais nous sommes sur la bonne voie. La pente est dure, la route est longue, mais nous sommes courageux.
Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels.
Messages personnels. Il faut épauler Miquette. Je répète, il faut épauler Miquette.
Les girafes ne portent pas de faux col. Clémentine peut se curer les dents.
Villeurbanne vous parle. Attention, message personnel.
Andromaque se parfume à la lavande. Nous répétons, Andromaque se parfume à la lavande.
Attention, message personnel. Les trois taupes traboulent. Je répète, les trois taupes traboulent.
Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi.
Message personnel. Villeurbanne, c'est pas pareil. Je répète, Villeurbanne, ce n'est pas pareil. Message personnel.
L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense.
Sommeil ne dort pas.
Je répète.
Sommeil ne dort pas.
Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons.
Le comité Leroux-Rhône va vous chicorer.
Il est temps de cueillir les tomates. Titien était un peintre.
Dehors, la nuit est gouvernée.
Nous disons deux fois.
Dehors, la nuit est gouvernée.
Message personnel. La TSF s'enfile.
Petit poisson deviendra grand.
Les rêves sont immobilisés.
Nous répétons.
Les rêves sont immobilisés.
Je n'aime pas les crêpes Suzette. Nous disons, je n'aime pas les crêpes Suzette.
Les trois taupes traboules. Je répète, les trois taupes traboules.
On joue le Cid à l'opéra. Les lapons portent des fourrures.
Le répit se réveille. Je répète, message personnel. Le répit se réveille.
Athalie est restée en extase.
Maurice et Robert, ça se vaut pas.
Nous disons deux fois.
Maurice et Robert, ça se vaut pas.
Tante Amélie fait du vélo en short.
Attention, Villeurbanne vous parle.
Louis a deux cochons.
La nougatine n'est pas du marbre. Message personnel, je répète, la nougatine n'est pas du marbre.
J'aime les chats siamois. Amédée est laide.
Message personnel, la meringue est défraîchie. Je répète, la meringue est défraîchie.
Grand-mère a 100 ans.
Maurice ne fait pas la meringue.
Nous répétons.
Maurice ne fait pas la meringue.
De la tortue au lièvre. Nous disons de la tortue au lièvre. J'arriverai avant toi.
Villeurbanne vous parle. Attention.
Nous répétons, j'arriverai avant toi.
Il faut épauler Miquette. Je répète. Il faut épauler Miquette.
Gilberte a les yeux noirs. De César à Pompée.
Message personnel. Le bambou boue. Je répète. Le bambou boue.
Nous disons de César à Pompée.
La bicyclette.
Les langoustes sont fraîches.
Est en roue libre. Je répète. La bicyclette est en roue libre.
Nous répétons, les langoustes sont fraîches.
Message personnel, l'univers n'est pas universel. Je répète, l'univers n'est pas universel.
Vous êtes sur le 99,3 MHz, le feuilleton vertical. Un programme réalisé par une coopérative ouvriériste de production de radiophonie. Allez, veuillez écouter à présent une réclame.
Si, dans l'œuf au bacon, c'est-à-dire l'œuf à l'américaine, la poule est concernée, le petit cochon est lui physiquement impliqué.
On est avec Marcel Avey, on est chez vous. Oui. Alors tout de suite, vous nous présentez un livre que vous avez publié en
94, que j'étais le chercheur et l'écrivain était Bruno Permezel, un Lyonnais, et moi, Villeurbannais.
On est allé aux archives, on a consulté votre livre parce qu'on... On s'intéresse au gratte-ciel et puis on a cherché à voir s'il y avait une rue Maurice Leroux. Et alors, pas de rue Maurice Leroux.
Alors, dans ce livre, nous répertorions à la fin les gens qui n'ont pas été honorés dans la ville. Et nous parlons de Maurice Leroux. Et voici Maurice Leroux. Là, vous voyez, on dit que de toute façon, il n'a pas été honoré dans la ville. Bien sûr que dans la vie, on ne réalise pas tout, puisque le maire Lazare Goujon n'avait pas pu terminer le vélodrome de Villeurbanne. De là est parti toutes les ennuis, la guerre. Lazare Goujon a été battu. Et ils se sont trouvés dans des difficultés invraisemblables. Puisque quand la guerre a été finie, le vélodrome n'a pas pu continuer, les dégâts des eaux, les disparitions des matériaux sur le terrain, etc. Et puis il y avait peut-être, après la guerre, moins de finances aussi. Et de là, les ennuis ont commencé, et puis Maurice Leroux, il a été confronté à des situations invraisemblables, quoi. Et puis c'est un garçon qui a fini sa vie très tristement. D'ailleurs, on le met...
En consultant la page 256 de votre livre, hein, Maurice Leroux donc, est né au Mans, dans la Sarthe, en 1896. Et la dernière phrase donc, de cette petite présentation des gens qui n'ont pas été honorés tels qu'ils l'auraient dû. À la suite de deux procès intentés par la municipalité et par la SVU, Maurice Leroux, ruiné, doit endosser les vices de forme, des escroqueries et diverses malversations. Reconverti, il fait de la comptabilité et devient conseiller en placement de capitaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaillera pour le ministère de l'Air et bâtira quelques projets de soufflerie et des maisons d'enfants pour les œuvres sociales de l'armée. Hémiplégique, il mourra oublié dans une chambre d'hôtel avec poste d'eau et WC sur le palier. Voilà ce qu'on a réservé à Maurice Leroux.
Je pense que quand on se remet dans le contexte de ce qui a été réalisé dans la ville, il méritait certainement mieux que ça. Par contre, son nom paraît dans la ville. Il y a une résidence qui s'appelle Maurice Leroux, qui est à côté des gratte-ciels. Puis le collège Maurice Leroux.
Voici notre 9e bulletin d'information. Nous nous parfumerons à l'époque.
Il faut s'épauler Mickey.
Justement, on fait un petit jeu radiophonique. Vous reconnaissez le personnage?
Vous
pourriez le décrire?
C'est Maurice Leroux, ça? Non?
Tout à fait. C'est lui.
Mais un peu plus vieux que quand il faisait les gratte-ciels. Il était jeune. Tout ce que je sais, c'est qu'il travaillait comme un malade avec sa femme. La nuit, il faisait les plans. C'est un monsieur qui n'avait pas eu de chance. D'abord, le secrétaire de mairie s'était trompé en écrivant son nom. Et il y a M-O accent circonflexe, R-I-C-E. Ça l'a suivi toute sa vie. Mais de notre côté, ça l'a marqué comme il faut.
Nous, justement, au haut, avec l'accent circonflexe, on y a vu une petite coquetterie en rapport au Rhône.
Ah, ben pourquoi pas. Après coup, on peut expliquer tout. Sans problème.
C'est vrai que Villeurbanne, c'est un cas très, très particulier parce que c'est un urbain qui s'est constitué en périphérie de la grande ville. Ben, il faut être clair, ça a été la banlieue industrielle de Lyon, même si ça n'était pas encore dans le département du Rhône, hein, faut le savoir. Et ben, ça a créé une certaine forme de vie et d'habitat. Bon, c'était surtout d'abord la production, et il y avait quelques opérations d'habitat individuel qui se sont faites, avec des politiques plus ou moins sociales, il faut dire du patronat de l'époque, hein, qui a été d'ailleurs la naissance du logement social, il faut rendre aussi les choses, mais aussi parfois avec des habitats qui étaient très limites en termes de qualité. Ce qui est remarquable, c'est quand même que le maire de l'époque, qui est un médecin, hein, Lazare Goujon, a commencé à regarder un peu sa population et s'est dit « mais qu'est-ce que je pourrais faire pour cette ville ?» Alors, il faut se rappeler que la mairie, elle était à Grand Clément. C'était une petite mairie à Grand Clément. Il a osé poser un projet fort, très très fort, et c'est quand même remarquable à l'époque, parce que aller dire qu'il allait créer toute pièce un cœur de ville avec du logement, appelons social, c'était surtout du logement qu'il appelait hygiéniste, parce que sa volonté, c'était de dire les gens, ils vivent quand même dans des conditions limites d'hygiène et avec toutes les conséquences sur la durée de vie, d'ailleurs, c'est un connaisseur. Hein. Et il s'est dit, il faut que je crée des conditions de vie hygiéniques. Et donc, ça a été la naissance du produit gratte-ciel. Mais surtout, il s'est dit, je ne vais pas planter ça comme ça, il faut quand même que je crée un morceau de ville. Ce qui est remarquable. Alors, il a réfléchi à l'idée d'un morceau de ville. Qu'est-ce qu'il a pensé? Ben, il a pensé qu'il fallait faire la maison commune, l'hôtel de ville qu'on a là, que vous voyez. Et il a aussi pensé qu'il fallait que ces gens-là, ils puissent avoir des relations sociales, s'organiser dans leur vie, à la fois de façon associative, de la façon également revendicative. Il ne faut pas non plus dire derrière qu'il n'y avait pas des enjeux politiques. Et donc, c'était la naissance du Palais du Travail. Palais du Travail, pour le repérer aujourd'hui, c'est celui qui abrite le TNP. Donc, si vous voulez, ce qui est fort dans tout cela, c'est que le choix politique, hein, qui ensuite, bien sûr, a débouché sur un choix architectural qu'on connaît. Alors, comment il en est arrivé là? Ben, il faut dire que c'était le moment de Tony Garnier, qui avait une certaine conception de l'architecture, une certaine conception de la ville, était quand même le précurseur. Et il s'est arrivé que celui qui a été retenu dans le cadre du concours, c'était un disciple de Tony Garnier. Et Tony Garnier était membre du jury. Donc, il faut savoir quand même. Hein, Et c'est ce qui donne un peu ce projet, quoi, si vous voulez. Alors, ce projet avec ce caractère. Alors, je dirais qu'il y a à la fois le caractère, qui est une chose particulière, mais c'est surtout le contenu au niveau de l'organisation. Oser poser un projet où il y avait 1500 logements, du commerce déjà, vous imaginez en 1932-33, du commerce dans une certaine densité, enfin, comme moi, tous ces rez-de-chaussée, bon, fallait avoir une fête visionnaire, et ce bâtiment, enfin, je veux dire, assez monumental, et ainsi que le Palais du Travail. Et moi, ce qui me fait dire aujourd'hui, avec le recul, On en a plein la bouche de ce que l'on appelle la politique de développement durable. Mais moi, je pense qu'il y a des exemples comme ceux-là, dont il faudrait peut-être qu'on réfléchisse un peu, de voir que pourquoi on a réussi tout ça. Ça n'a pas été sans cahotement, hein. Je veux dire, on me dirait, il faut ici dire que tout n'était pas aussi rose que je le décris aujourd'hui, mais le débouché aujourd'hui, 70 ans après, c'est intact. Vous avez le parti du bâti comme tel, il a été un peu réhabilité, remis au goût du jour. Il y a eu une opération lourde de réhabilitation autour des années 80. Finalement, il faut oser. C'est plus un problème, souvent, je dirais, de densité. Vous savez, aujourd'hui, on a l'impression que dédensifier, c'est faire la ville. C'est une erreur. C'est une erreur stratégique. Au contraire, il faut densifier, mais dans un élément de qualité, c'est-à-dire qu'il faut donner de la qualité dans la densité. Et moi, je crois que tout le débat, demain, ça sera cela. Sans être très critique de ce qui a pu se faire dans les quartiers difficiles. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 400 à 500 quartiers en difficulté, où aujourd'hui, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on essaye de dire qu'on va aller rénover, qu'on va essayer d'y mettre. On y a engouffré des sommes monumentales, au point qu'on va déboucher en disant maintenant il faut faire de la démolition reconstruction. Donc voyez un petit peu. Mais ça, je crois qu'il faudrait qu'on médite, justement, dans le cadre du développement de la ville, de voir que ça n'est pas le fait des tours et des bars. Je pense que c'est une erreur d'avoir dit que c'était ça l'erreur. C'est pas forcément ça. C'est la manière dont on n'a pas su donner autour de ces constructions d'habitat le service qu'attendait la population. Alors que là, en 1934, il avait déjà compris tout ce que la population attendait. Les gens ont du mal à poser des projets forts, dans la mesure où ils ont l'impression que c'est pas facile de le faire passer dans les populations, de le faire comprendre, de le projeter. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a un peu de mal à poser des projets forts. Mais moi, je dirais que fort de l'expérience de ce qu'il y a ici, eh bien, il faut que les politiques, aujourd'hui, méditent un peu et regardent un petit peu ce qui est l'avenir, la politique durable. Voilà.
Nous nous apprêtons à souffler ensemble ces 70 bougies au milieu de ces bambous qui évoquent si subtilement la vigueur toujours verte de notre municipalité.
C'est à lui que nous le devons. Buvons, camarades, buvons à la santé de Maurice.
Vous êtes du quartier ?
Oui.
On fait un petit jeu radiophonique, ça vous fait penser à qui ?
Je suis pas très doué, moi. À vous ?
C'est Maurice Leroux.
Maurice, hein ?
Maurice Leroux.
Ah.
Ça vous dit toujours rien ?
Non.
Maurice
Leroux. Qui c'était ce brave homme ?
C'est lui qui a construit les gratte-ciels. L'architecte. Bel homme, hein ?
Ouais. Il y a une ressemblance avec vous.
Ah bon ?
Ouais.
Il y a quelque chose qui nous questionne, c'est d'où Maurice Leroux amenait ses idées ?
Alors, il faut quand même dire que Leroux a d'abord correspondu à une volonté politique. Il faut quand même attribuer d'abord à Lazare Goujon ce qu'il cherchait. Les bases de son dossier, bon, c'était d'abord dans un périmètre large, parce que faut quand même dire que c'est aujourd'hui poser des projets, vous voyez bien que c'est un peu difficile, parce que d'abord, il faut la maîtrise du foncier. Donc déjà, oser un périmètre large, oser annoncer un type d'habitat, c'est-à-dire qu'il avait donné une description de l'habitat, le fameux habitat biogéniste, oser penser qu'il y avait une densité à mettre sur ce périmètre pour qu'une unité de vie puisse se faire, pour que les gens puissent, à la fois aussi bien sur la notion du service, du commerce, de la maison commune, du palais du travail, il fallait une densité de gens. Donc ça, c'est quand même avant tout là une décision politique. Alors après, la manière dont l'archi a supposé et transférer ses idées politiques dans un produit, c'est vrai que c'est la qualité de l'architecte. Mais quand je vous ai dit quand même que Leroux était un disciple de Tony Garnier, vous comprenez mieux un petit peu les notions d'architecture que vous retrouvez là.
Agrandir, assainir, embellir.
D'abord, Garnier, bon, c'est une monumentalité. Si vous pouvez comparer, alors il y a une mairie qui est très similaire à la nôtre, c'est Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, c'est Tony Garnier qui l'a fait et c'est lui qui a créé la notion de monumentalité, c'est-à-dire qu'il a considéré que la maison commune, on n'était pas exactement dans les mêmes données qu'aujourd'hui en termes de vie administrative, de choses. Il a surtout indiqué qu'il fallait des volumes, c'était un peu, je dirais, la chapelle laïque. Hein, je crois qu'il faut dire les mots parce que c'est ce qui ressort, quoi. Moi, je trouve que ces hauteurs, ces volumes, ces escaliers monumentaux, c'est une chapelle. Alors, il la veut laïque, c'est clair, et donc il veut qu'elle soit marquée. Donc ça, c'est du Tony Garnier dans son concept, mais Lazare Guigeon s'y retrouve. Alors ensuite, mais là, c'est plus particulier, c'est que compte tenu du projet de la densité, même si l'espace, que j'ai dit, est non négligeable, on est arrivé à des hauteurs. C'est là que, effectivement, c'est tout le mariage de l'urbaniste et de l'architecte à des hauteurs qui est un produit, les gratte-ciels. Alors, le terme, j'ai jamais cherché beaucoup, mais apparemment, c'était quand même un peu une description de la manière dont on construisait Outre-Manche, où on avait des volontés de hauteur, et que là, il fallait oser poser un projet dans des hauteurs de constructibilité qui n'étaient pas aussi évidentes que cela. Et le terme gratte-ciel est resté parce que c'était un peu construit comme des gratte-ciel, si vous voulez. Mais dans une architecture qui aussi était un peu dans l'esprit de Tony Garnier. Vous avez une architecture assez rigide, il faut le dire quand même. Mais elle est à la fois rigide, mais attrayante. Et vous avez pu remarquer qu'il y a du travail fin sur un certain nombre d'éléments en vue extérieure, quand vous avez toutes les serrureries, verreries, sur la rue Verlaine et sur la rue Michel Servet, c'est remarquable, hein, je veux dire, au niveau de ce travail de serrurerie. Il faut se mettre en 1930 en matière d'exécution de chantier. Vous voyez un petit peu ces verreries et ces qualités, vous voyez ça, c'est véritablement une œuvre d'art, je veux dire. Alors après, sur le mode de construction, là aussi, c'était quand même une recherche de constructibilité, alors dont la base, c'est une construction base métallique avec remplissage béton, qui a résisté avec le temps, hein, vous voyez. Bon, ce qui veut dire qu'on pouvait marier et béton et construction métallique. Bon, après, il y a eu d'autres opérations malheureuses en termes de construction, je n'insisterai pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu des collèges qui se sont effondrés parce qu'on a cru que le métallique seul, ça tiendrait, et qu'on ne s'est pas pillé le béton, et qu'après, on est revenu qu'à du béton parce qu'on a tué le métallique. Mais que, vous voyez, le mariage métallique-béton a pu permettre de faire des hauteurs, de faire de la qualité. Et aujourd'hui, et c'est toujours là. Alors, là aussi, il faut expliquer qu'à l'époque, la construction de cette affaire, elle a été faite par une entreprise locale, qui est une coopérative, et c'était dans le même esprit. Il faut dire quand même que c'est une entreprise de coopérative qui est restée, par ailleurs, pendant des années. C'est la dernière coopérative française d'une certaine importance en matière de construction. Ça s'appelait L'Avenir. Ça a été L'Avenir qui a construit cet édifice, ces édifices. Et, je veux dire, dans un esprit qui était à la fois aussi un esprit coopératif, vous voyez. Et donc, tout est en accompagnement dans cette affaire, vous voyez.
La société villeurbanaise d'urbanisme, 112 rue Anatole France, vous offre des appartements clairs et spacieux avec le maximum de confort. Eau chaude, chauffage urbain, ascenseur, gaine ménagère, cuisine électrique, terrasse, etc., etc. Vous écoutez actuellement un programme de la fréquence éphémère, coopérative ouvriériste de production de radiophonie, qui salue particulièrement en ce jour L'Avenir, société coopérative ouvrière. L'Avenir a exécuté les travaux de l'hôtel de ville, la moitié des immeubles du centre urbain villeurbanais et le central téléphonique. Téléphone Moncey 1644. Saluons également l'Union, société ouvrière coopérative, 67 rue de la Buire à Lyon. Téléphone Moncey 1910. La société L'Union a exécuté pour la SVU les travaux de zingerie, plomberie, eau et gaz, appareils sanitaires dans la moitié des immeubles locatifs et la totalité de la nouvelle mairie.
Il n'y a pas de directeur dans une coopérative. Chacun est quasi à égalité de pouvoir. Bien sûr, chacun à l'intérieur exprime son savoir-faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie des choses. Il y a un ensemble du monde de la profession à égalité, qui exprime son savoir-faire. Et à partir de là, on construit. Alors ensuite, les niveaux de rémunération sont discutés avec l'ensemble des collaborateurs. Ce n'est pas un tel qui décide le salaire de Pierre, Paul ou Jacques. C'est le produit, c'est la productivité de la chose au sens global, ou des bénéfices, c'est à espérer, et qui se partage dans le cadre d'un débat ouvert, sans qu'il y ait pour autant quelqu'un qui est directeur par directeur. Et ce qui est remarquable, je trouve, c'est que ça a encore tenu il y a encore à peu près 10 à 15 ans. C'était une des dernières. Bon, alors après, ils ont plus été décimés par les difficultés économiques du moment que par le principe même de la coopérative. Parce que moi, je crois qu'on a encore besoin de ce type d'approche, qu'on le veuille ou non aujourd'hui. Vous savez, on parle toujours aujourd'hui que le sentiment de l'ouvrier, c'est d'être dans un système capitaliste où il subit plus qu'il puisse se positionner. Alors que là, on pourrait admettre que c'est ce qui est fort, c'est que vous amenez votre professionnalisme et qu'après tout, les profits sont répartis dans le cadre d'un débat ouvert entre les parties.
L'avenir ! Société coopérative ouvrière !
C'est avec un plaisir non dissimulé que les speakers de la fréquence éphémère rencontrèrent il y a guère M. Bernard Meuret.
Oui, allô ? Bon, alors, eh ben, prenez le temps d'arriver, hein, je vous attends dans 10 minutes en bas. Hein.
Le socialisme municipal.
C'est autre chose, quoi, c'est pas...
C'est pas pareil ! C'est le destin original de notre bonne ville de Villeurbanne que présente M. Bernard Meuret.
Ce que je peux vous raconter, c'est un peu comment j'ai été amené, moi, à faire ce travail, à choisir ce thème comme thèse.
M. Bernard Meuret est l'auteur du Socialisme municipal, Villeurbanne 1880-1982, édité aux presses universitaires de Lyon et préfacé par M. Charles Hernu. Reprenons la parole limpide du maire Charles Hernu. Il ne s'agit pas d'étudier en effet la volonté d'indépendance de n'importe quelle commune voisine d'une grande métropole, mais d'examiner jusqu'à quel point un projet politique différent du projet dominant a pu s'affirmer. Pour l'heure précise, veuillez attendre le troisième taupe.
Bon, un quart d'heure alors, 11h05, hein. Allez, à tout de suite.
L'ecclésiastique nous a reçus très simplement autour d'un americano dans son petit appartement lyonnais.
La boisson des gens qui voient haut.
1972, Monsieur Bernard Meuret part pour Lyon.
C'est que j'étais à ce moment-là dans la région parisienne. J'étais à Saint-Germain-en-Laye et un jour, quelqu'un qui était avec moi, sachant que je partais à Lyon et plus spécialement à Villeurbanne, on regarde une carte ensemble, une classique, la coloriée.
Un simple regard sur une carte.
Et il me dit, mais c'est quand même étonnant que cette ville, qui était, je crois, en jaune et que Lyon devait être en rouge, elle me dit, regarde, c'est quand même étonnant que cette ville n'ait pas été absorbée, n'ait pas été annexée. Alors, je lui dis oui, effectivement, c'est un peu étonnant que ça soit comme ça. Et puis, quand j'ai été amené à entamer ma thèse en 76, je me suis immédiatement enquis de trouver de la documentation, bien sûr, pourquoi cette ville n'avait pas été absorbée par Lyon. J'ai eu une chance d'ailleurs très très grande, c'est que quand j'ai commencé à explorer aux archives départementales, je tombe sur le conservateur qui me dit « Ah ben écoutez, c'est intéressant que vous attaquiez ce sujet-là, parce que j'ai quelque part dans les archives là-haut un carton qui n'a pas dû être ouvert depuis 1905 et qui contient, me semble-t-il, toute une documentation sur le sujet, c'est-à-dire au moment de la dernière tentative d'annexion. Alors évidemment, un chercheur, hein, c'est une aubaine de tomber sur le document de première main, quoi, hein, qui va vous permettre de faire le nécessaire pour faire son travail. Il se trouve aussi que personne n'avait exploré la question. Alors voilà, bon, j'ai exploré donc les documents en question, puis évidemment trouvé dans les comptes rendus du conseil municipal un certain nombre de choses.
Trois menaces d'annexion.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Villeurbanne a eu trois menaces d'annexion.
Première menace.
Dans les années 1880, à peu près, hein, qui était d'ailleurs assez ambitieuse. Elle était due essentiellement à la mise en place du système de défense autour de Lyon. Et car ce système de défense était assuré par une ligne de fortification qui, en gros, est la ligne qui passe à la gare des Brotteaux, quoi. Donc avec un certain nombre d'ouvrages militaires tels qu'on les faisait à l'époque. Et après la guerre de 70, on s'aperçoit de la portée des armes à feu, des canons, et que si on ne faisait rien, le centre de Lyon était menacé. Voilà, presque il était menacé. Donc il fallait repousser les défenses beaucoup plus loin. Donc il fallait pratiquement annexer le territoire de Villeurbanne à l'intérieur de Lyon. Et puis finalement, on a fait les fortifications qui sont à l'heure actuelle le tracé du périphérique, quoi, hein, et qu'on appelait le boulevard de Ceinture, encore à une époque récente. Et du coup, Villeurbanne, c'était trop lourd pour Lyon de le prendre en charge. Il y avait trop de travaux à faire, etc. Donc, la première menace d'annexion ne s'est pas faite. C'est peut-être une certaine mesure dommage, parce qu'entre autres, il était prévu tout un périphérique, et en particulier une ligne de chemin de fer qui aurait fait le tour de Lyon. L'emprise pour faire passer cette ligne aurait sans doute été intéressante pour faire le tour de Lyon et récupérer un boulevard, quoi. Bon, ça ne s'est pas fait. Villeurbanne est resté, n'avait pas un grand nombre d'habitants. Et puis malgré tout, il y a une chose qui n'était pas ancienne, c'était que cette ville était dans le département de l'Isère, hein, jusqu'en 1852. Et donc le Dauphiné arrivait jusqu'au Rhône, quoi, pratiquement. L'histoire montrait d'ailleurs que pour que Lyon passe de l'autre côté du Rhône, c'était très difficile. Jusqu'à Henri IV, aucun pont n'a tenu sur le Rhône. Donc ça explique aussi que toute cette zone derrière a été laissée à d'autres, hein. Et aussi, la zone était également inondable. Le premier Villeurbanne s'est beaucoup cantonné du côté de Cussé. C'est un peu là l'origine de Villeurbanne, puisqu'il y a une dénivelée de 15 mètres qui permet de vivre là à l'abri des inondations.
Deuxième menace d'annexion.
Une deuxième occasion, alors pas directement d'une annexion totale de Villeurbanne, mais qui aurait pu entraîner une annexion totale de Villeurbanne, 1884. À savoir que le parc de la Tête d'Or, la limite entre Lyon et Villeurbanne passait à l'intérieur du parc de la Tête d'Or, dans le petit ruisseau qui s'appelle l'Abîme, qui passe en souterrain d'ailleurs sous le Tonkin, sous le quartier du Tonkin. C'était ça la limite. Or, il se trouve que Lyon, pour entrer dans Lyon, on payait un octroi. Et que, bien sûr, la fraude était cherchée par tous les moyens. On cherchait à rentrer sans payer les droits d'octroi. Or, le parc de la Tête d'Or était de toute évidence un point faible. Et c'est très très difficile de surveiller à l'intérieur du parc de la Tête d'Or de nuit des gens qui passaient les marchandises, quoi. C'était d'ailleurs également le cas à Caluire. Il y avait là aussi une difficulté. Je me souviens d'un texte où on raconte que les ballots de marchandises passaient d'une propriété à l'autre par-dessus les murs du petit chemin qui faisait la limite. Enfin bref, nécessité pour les Lyonnais qui voulaient garder une ligne de droit d'octroi de récupérer une partie du parc de la Tête d'Or, la partie villeurbanaise du parc de la Tête d'Or. Et la limite qui leur paraissait la meilleure, la plus naturelle, c'était la ligne de chemin de fer. La ligne de Genève, comme on l'appelait à cette époque-là, qui passait au Breteau, puis qui traversait le Rhône, etc. Donc là, c'était commode, sur le ballast, d'arrêter les trafiquants, quoi, hein, les fraudeurs. Lyon entreprend de récupérer cette partie du parc pour protéger son octroi. Et il a fallu 10 ans. En 1994, l'affaire a été conclue et Villeurbanne a perdu cette partie du parc.
Troisième menace d'annexion.
Une certaine logique aurait voulu que l'annexion continue. Or, depuis 1992, c'était les socialistes qui étaient au pouvoir à Villeurbanne. Et que par conséquent, eux ont tout de suite joué dans le sens de la différenciation, puisque c'est le thème de mon travail, hein, en disant c'est une terre ouvrière, c'est une terre où la population a besoin qu'on s'occupe d'elle d'une manière spécifique, et donc ils ont tout fait eux aussi, même pour garder cette partie du parc, hein. Alors, les choses en étaient là. Villeurbanne donc gardait sa différence par rapport à Lyon. Quand arrive l'affaire Dreyfus, et l'affaire Dreyfus amène un certain nombre d'hommes à prendre position et à se rallier, disons, à la gauche, à une gauche socialiste qui n'était pas encore la SFIO, puisque la SFIO ne date que du début du XXe siècle. Et il se trouve que là, on va trouver deux hommes, l'un en face de l'autre. D'un côté, Victor Augagneur, qui chirurgien, maire de Lyon, qui appartenait à cette gauche socialiste et qui, quand il arrive aux affaires, souhaite agrandir Lyon. Car Lyon était passé de l'autre côté du Rhône, mais ça, c'était une affaire déjà ancienne, 1852.
Villeurbanne, département de l'Isère, jusqu'en 1852.
52, c'est le passage, l'annexion de la Croix-Rousse de Vaise et de la partie lyonnaise qui est de l'autre côté, c'est-à-dire la Guillotière, quoi, pratiquement, hein, de l'autre côté. Mais on restait limitrophe de Villeurbanne, hein, qui n'était pas dans le département du Rhône. La limite de la département du Rhône était plus loin, et Lyon s'était agrandi en annexant. Alors, Augagneur trouve que c'était un terrain où on gagnait de plus en plus à travers des rues comme le cours Viton. On gagnait vers... Et logiquement, c'est là où Villeurbanne aurait dû. Donc, on se situe là vers 1900.
Hein. Coup de théâtre. L'équipe présidée par M. Augagneur a perdu la municipalité.
Augagneur a perdu la partie. Il faut dire qu'on ne voyait pas très très bien non plus à Lyon les choses se faire dans ce sens-là, parce que annexer Villeurbanne, ça voulait dire engager des finances publiques d'une manière assez conséquente, parce qu'à Villeurbanne, ben, il y avait de la voirie à mettre en place, il y avait des problèmes d'abattoir à résoudre. Et alors, si Lyon annexait, ben, il fallait qu'il continue dans le même sens et qu'il continue à dépenser de l'argent, quoi, pour Villeurbanne. Et ça représentait quand même de gros investissements. Et là-dessus, Augagneur s'est découragé. Et est parti assez rapidement, d'ailleurs, en 1904, autant que je me souvienne, gouverneur à Madagascar. Il a en quelque sorte lâché Lyon et en même temps lâché le problème de l'annexion. Et arrive donc à ce moment-là Édouard Herriot, qui, plus réaliste vraisemblablement, voyant ce qui s'était passé à Villeurbanne, la manière dont cette municipalité mettait les choses en place, s'organisait et tout, ne voulant pas, encore une fois, engager des finances lyonnaises sur ce terrain, finalement a reconnu de fait la différence et la différenciation de Villeurbanne. Et la chose n'a pas été remise en cause à partir de là. Alors ça a permis, sur le terrain villeurbanais, bah, de s'organiser effectivement comme une ville ouvrière qui essayait de répondre aux besoins de sa population. Et après tout, Herriot regardait ça d'un bon œil, ayant lui d'autres engagements à prendre, par exemple vers l'extension vers le quartier des États-Unis, qui va d'ailleurs se mettre en place à peu près à la même époque que les gratte-ciels vont se mettre en place. Alors, bon, les mairies de Villeurbanne se déplacent, elles descendent de QC vers la plaine, j'allais dire. Hein.
La mairie se déplace vers la plaine.
Nous répétons.
La mairie se déplace vers la plaine.
Alors, l'intérêt aussi de Villeurbanne, c'est qu'il a eu une succession de maires médecins. Et des médecins très proches du peuple, qui voyaient les maladies de l'époque, entre autres la tuberculose, voyaient aussi les ravages que pouvaient faire les pollutions des usines. Un des maires, Jules Grand-Clément, qui est vraiment l'homme qui s'est battu pour améliorer la situation de...
Le socialisme municipal. C'est ce destin original que présente M. Bernard Meret, enseignant de sociologie urbaine à l'INSA, dans cette étude du socialisme municipal à Villeurbanne depuis 1880. C'est alors que se succèdent les médecins à la mairie.
Grand-Clément, en 1920, au moment du congrès de Tours, prend nettement position pour le PC, le PCF qui se crée. Tout le monde ne le suit pas, car la structure sociale de Villeurbanne à ce moment-là était faite de beaucoup de petits ateliers, tissage, mécanique, etc., et pas de la grosse masse ouvrière. Il y avait quelques usines, il y avait Dell en particulier, Dell Alstom qui s'était replié pendant la guerre 14, mais il y avait peu de ces grandes usines, qui était plutôt un électorat favorable au PC, alors que les petites unités villeurbanaises étaient beaucoup plus favorables à la SFIO. Et donc il y a une crise à ce moment-là, à partir de 1920. Grand Clément croit avoir rallié tout le monde à sa cause, et en fait, c'est pas le cas. En 22, il n'a plus la majorité. Bon, le pouvoir préfectoral doit intervenir et on refait des élections. Et à ce moment-là, ce sont les socialistes SFIO qui reprennent le pouvoir avec Lazare Goujon. Alors, à partir de ce moment-là, un certain nombre d'opportunités vont se présenter. Alors, entre autres, ce qui va être très important comme symbole de la différenciation, c'est précisément ce centre nouveau qui va pouvoir se créer sur Villeurbanne. En d'autres termes, les gratte-ciel. Une opportunité, une usine. Alors, la crise de 29...
La crise de 1929 vide Villeurbanne de ses usines.
Qui amène un vaste terrain, là, au centre, et sur lequel on va pouvoir bâtir un nouveau centre. Alors là, il y a deux projets. Il y a un projet de mairie, d'une part, qui va se construire. Et puis, par ailleurs, Lazare Goujon, qui était aussi médecin, donc dans ce sens-là, il y a une continuité. Lazare Goujon va vouloir bâtir ce qu'il appellera le Palais du Travail. Donc cet ensemble qui est là derrière la mairie, où il va y avoir d'un côté pratiquement un dispensaire, mais plus qu'un dispensaire, puisqu'il va faire appel à des médecins lyonnais pour venir donner des conférences aux gens.
Vous êtes invité demain à la conférence hygiéniste proposée par monsieur le docteur Lazare Goujon.
Pour leur dire comment fonctionner du point de vue de l'hygiène, aussi bien faire laver les dents des enfants que ouvrir les fenêtres ou les fermer, enfin tout ce qui tourne autour de la propreté, l'hygiène, enfin etc. Et avec des consultations bien organisées, c'est d'ailleurs la partie gauche, quand on sort par l'arrière de la mairie, la partie gauche, c'était là où était le dispensaire.
Les services d'hygiène sociale.
Inspection médicale.
2787 enfants visités par les médecins en 1925, 5397 en 1932. Aux mêmes époques, 2341 et 3270 carnets de santé, 5000 observations de nourrissons.
Consultation prénatale.
Petit D.
Dispensaire antituberculeux.
Petit E.
Enfants arriérés et anormaux.
Petit F.
Radiographie et rayons ultraviolets.
De l'autre côté, des salles de réunion pour que la vie associative puisse fonctionner, en particulier la vie syndicale. Et au centre, un théâtre dans lequel on va aussi pouvoir amener de la culture, quoi, en quelque sorte. Et même la piscine en dessous, quoi, qui est aussi en faveur des... Vraiment un travail très très fort, quoi, au service de... Bon.
La santé par la propreté.
Piscine d'hiver, place Albert Thomas.
Douche de propreté.
Eau limpide, antiseptique, continuellement filtrée, aérée et verdunisée. Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 20h.
Alors, restait un gros problème depuis déjà pas mal de temps, le problème du logement, et du logement ouvrier en particulier. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? La première idée de Goujon, c'était, puisque au niveau du travail... Les gens, obligatoirement, sont dans une masse, quoi, hein. Ils sont obligés de se réunir pour travailler, etc. Bon. Et donc, ils risquent d'être entraînés dans des idéologies. Enfin, ils pensent aussi l'idéologie marxiste, communiste, hein, dedans, d'être entraînés dans ce type d'idéologie. Donc, au niveau du hors-travail, il est nécessaire qu'ils aient un chez-eux. Et là encore, essayons de ne pas les massifier, c'est-à-dire évitons le collectif dans la mesure où on le peut. Et donc, son idée, c'était, il y avait du terrain, allons-y, construisons du pavillonnaire, hein, et les gens comme ça seront chez eux, et même assez vite qu'ils puissent être propriétaires. Et d'ailleurs, c'est là où ils lancent la fameuse affaire là-bas, de l'autre côté du périphérique maintenant, il s'appelle le Bel Air, enfin le quartier du Bel Air, hein, où on va construire les fameux cottages villeurbannais, que les gens vont construire eux-mêmes d'ailleurs. Il est allé voir une cité de cheminots à Tours pour voir comment ça se passait. Et il a essayé, il a réussi d'ailleurs à organiser les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes, le samedi et le dimanche, construire leur propre logement. Avec d'ailleurs le thème de la paix. Si vous circulez dans ce quartier-là, vous savez qu'il y a la place de la paix. Et puis il y a également ce qui faisait d'ailleurs, Charles Hernu en était très fier, il y a le nom de trois déserteurs de la guerre 14. Montrant que c'était des gens qui n'avaient pas toléré, en particulier, un certain nombre d'opérations militaires pendant la guerre 14.
Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur. Et Dieu... perd son temps à faire les étoiles et les fleurs.
Et donc, construction de logements, je reviens à mon idée, de logements individuels, de logements... Mais malgré tout, il y avait tellement de monde à loger qu'il fallait bien en arriver à un moment ou l'autre au collectif. Et par conséquent, quoi faire ? là encore, la hantise du médecin qui savait qu'un certain type de collectif qui n'était pas suffisamment aéré, il y avait un puits fermé au milieu dans lequel le soleil n'arrivait pas, l'air ne circulait pas, etc. Et donc, il y avait des microbes qui étaient là. Enfin, la grande hantise, c'était la tuberculose, bien sûr. Et il fallait construire un tout autre type de collectif où le soleil et l'air pourraient circuler. Enfin, le soleil rentrait, l'air circulait. Et puis, en même temps, des communications plus faciles, plus commodes, etc. Alors, quoi faire ? Il se trouve que pour construire donc l'ensemble du palais du travail, ce qui s'appelle aujourd'hui le TNP, quoi, hein, il fallait faire un concours. On fait un concours. Alors, la mairie, c'était autre chose. Hein. Elle avait été l'objet d'un autre concours. Mais tandis que là, c'était un concours anonyme d'architecte. Alors un certain nombre de gens, comme ça se fait, envoient leur travail, fait leur proposition, ont des cachettes et on trouve la proposition d'un homme qui n'était pas connu, qui était Leroux, qui n'avait construit pour le moment que des locaux utilitaires, autant que je me souvienne, à Casablanca, au Maroc. Voilà, mais enfin, son truc était pas mal. Il n'y avait qu'une affaire qui les chagrinait un peu, c'était que les façades n'étaient pas... extraordinaire. Alors on est allé demander à Tony Garnier de revoir le problème des façades, corrige son truc. Puis une fois que Leroux était dans la place, il dit mais le problème des collectifs, pourquoi ne pas faire comme on fait maintenant aux États-Unis ? À savoir que jusque-là en France on construit des immeubles avec des murs porteurs. Alors qu'aux États-Unis, on construit avec de la structure métallique. Ça permet de faire des dispositifs beaucoup plus allégés, hein, d'une part. Et les murs ne sont plus que des murs écrans, des murs rideaux, quoi, hein, des cloisons. Et c'est comme ça que Leroux propose ce nouveau type de construction, y compris avec les deux tours d'entrée, pour marquer justement un peu solennellement le centre de la ville. Alors, à partir de ce moment-là, c'est une opération tout à fait novatrice. Voilà, bon, alors, à partir de ce moment-là, la différenciation, elle est nettement affirmée, quoi. Et elle va se poursuivre jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, quoi, avec une municipalité pratiquement socialiste sans interruption. Les communistes reviendront au pouvoir, mais brièvement, jusqu'à aujourd'hui, avec la volonté de jouer sur ce terrain pour cette population-là, et en suivant les évolutions. Alors bon, aujourd'hui, qu'en est-il de la différenciation ? Ça, c'est un autre débat, étant donné les changements, les évolutions de population.
Merci, messieurs.
Ce programme de radiophonie est disponible également sur Internet. Pour l'heure précise, veuillez attendre le troisième tour.
Gratiel.
Ordinaire et une ville urbaine, c'est pas pareil.
Et voici pour vous convaincre un exemple illustratif. Si dans l'œuf au bacon, c'est-à-dire l'œuf à l'américaine, la poule est concernée, le petit cochon est lui physiquement impliqué.